va entamer donc le troisième épisode de notre balot à travers l'histoire. Je vais, dans un premier temps, revenir un peu sur ce qu'on a vu dans les deux précédents. Et ensuite, je vais illustrer avec la même méthode que j'ai utilisée avec la peinture, l'architecture et la musique. Je vais illustrer aussi non plus l'époque passée, mais l'époque présente. Je vais essayer de l'illustrer en utilisant cette fois-ci des témoignages et des réalisations visées dans le domaine du design des arts décoratifs. Et pour terminer, j'essaierai de faire une synthèse un peu personnelle, disons, de cet aperçu historique, parce que au moment de la préparation de ces séances, ça m'a permis d'effectuer un certain nombre de recherches que je n'aurais pas eu l'occasion de faire, que je n'aurais pas eu l'idée de faire. Donc ça m'a amené à percevoir un certain nombre de choses que j'aimerais partager avec vous en termes de conclusion et d'ouverture, bien sûr, sur la suite de la série. Donc vous savez qu'à partir de la semaine prochaine, c'est Philippe Coiffu qui prendra le relais. Et j'essaierai donc de lui passer le relais de la façon la plus organique possible. Alors, d'abord une synthèse, un essai de synthèse de cet itinéraire de la conscience donc occidentale chrétienne à travers les événements peut-être principaux, à travers les siècles, les événements principaux qui l'ont émaillé. Alors, là, plutôt que de faire une chronologie de type historique avec des dates et des personnages comme on peut la trouver dans les ouvrages, j'ai pensé que ça serait une bonne idée d'essayer de trouver une image sous forme d'une phrase ou d'une expression qui résumerait les ambiances, je ne sais pas comment les appeler, les ambiances de ces visions du monde à mesure que le temps s'écoule. Donc je reprends la chronologie que j'avais esquissée dans la première séance, je vais la faire cette fois-ci plutôt verticalement. Vous vous rappelez que j'avais trouvé judicieux de commencer au 6e siècle avant Jésus-Christ, un moment. Donc je vais d'abord poser les jalons les plus importants. L'an 0, le 4e siècle, qui est extrêmement important pour ce qui nous intéresse. Ensuite, on va vite, 12e, 13e siècle, 17e, disons, et 20e, et aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe avant le 6e siècle? Avant le 6e siècle, on est dans un monde qu'on a beaucoup de mal à comprendre, et qui est le monde qu'on dit souvent le monde du mythe. Je vais prendre deux rouges pour qu'on résume donc par le terme de mythe, c'est-à-dire on raconte l'histoire du monde, on raconte l'histoire de l'homme, on raconte l'histoire des dieux, sous une forme narrative qui est celle caractéristique du mythe. Aussi autour du 6e siècle, 7e, 6e, 5e siècle, se produit un certain nombre d'événements dans le monde, avec une coïncidence qui soulève encore beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Je l'avais mentionné, c'est l'apparition des grandes religions qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, on a en Chine, en Perse, en Mésopotamie, en Palestine, en Égypte, c'est un peu plus tardif, Palestine aussi, on a l'apparition de ces grandes religions qu'on connaît, donc taoïsme, confucianisme, zoroastrisme, etc. Et cette période, le philosophe Jaspers, qui est un philosophe du 20e siècle, l'appelle la période axiale. C'est la période qui caractérise aussi, toujours Jaspers, par le terme de spiritualisation par spiritualisation, il entend le fait que l'esprit prend conscience de lui-même sous une autre forme que celle du mythe. En gros, hein, le mythe. Et il y a un essai de systématisation de toutes ces visions mythologiques sous la forme, parfois écrite, ou sous une forme orale qui est différente de celle du mythe. Bien sûr, les transitions ne sont pas aussi abruptes que le schéma pourrait le laisser entendre. Alors, après cette période axiale, s'ouvre une période qui, pour notre tradition, évidemment, est importante, et que Marjolaine a très bien explicité dans ses conférences du printemps dernier. Donc, elle a parlé de la philosophie grecque, et ensuite, elle a décliné l'histoire de la philosophie telle que on peut, évidemment, telle qu'on l'a dit dans les livres de l'histoire de la philosophie. Alors, peut-être le terme qui décrit le mieux cette période, c'est d'abord du chaos au cosmos. Donc, on recherche l'ordre dans le monde, on essaie d'y trouver un ordre. Je renvoie donc au cours de Marjolaine, je ne vais pas du tout élaborer là-dessus. Mais également, immédiatement après, homme, connais-toi toi-même. Donc ça, c'est l'ambiance vraiment qui caractérise cette période. L'an zéro, évidemment, est un tournant important pour notre tradition, encore une fois, et pour l'histoire qui nous intéresse ici. Alors, peut-être c'est la formule de Paul qui est la plus caractéristique pour caractériser la naissance de cette période. C'est folie pour les uns, que vous connaissez peut-être, n'est-ce pas, et scandale pour les autres. Folie pour les philosophes, donc le message évangélique, c'est une folie pour les philosophes, parce que c'est une philosophie qui n'a ni queue ni tête, et c'est scandale pour les juifs, parce que c'est une religion nouvelle, qui est en porte-à-faux avec le message de l'Ancien Testament et le message de la religion juive. Dans les premiers siècles, évidemment, il y a beaucoup de commentateurs qui essayent de justifier l'évangile, et d'autres, au contraire, qui essayent de la discréditer avec les arguments développés dans la période précédente, puisqu'on avait désormais des arguments rationnels particulièrement efficaces dans certains cas pour la discréditer. La période suivante, ou la date suivante particulièrement importante, c'est le 4e siècle. Le 4e siècle, c'est le siècle où la religion, où le message, donc folie pour les uns et scandale pour les autres, est institutionnalisé, où l'empereur romain, le pouvoir romain, reconnaît officiellement cette religion, et non seulement la reconnaît, mais l'impose à tout l'Empire romain. Donc c'est une institutionnalisation de cette religion, et qui produit une séparation absolument fondamentale pour tout le reste de l'histoire de la pensée et de la conscience occidentale, c'est-à-dire la séparation entre les païens. Je prends les termes, évidemment, tels qu'ils apparaissent, et les chrétiens. Donc, non pas que cette distinction n'était pas présente auparavant, mais là, elle est institutionnelle. Donc, on n'a plus le droit d'être païen dans l'Empire romain à partir du 4e siècle, plus précisément à partir de l'édit de Milan et de l'empereur Théodose, donc Constantin et Théodose, qui sont les deux grands artisan de ça. Alors, à partir de là, le message chrétien devient dogmatique, c'est-à-dire toute la suite de la mise en forme de façon plus ou moins systématique de ce message se fait sous la forme dogmatique. Et ce sont les conciles successifs qui vont établir le canon qui sera la référence absolue pour tout le reste de l'histoire encore aujourd'hui. une figure importante qui succède immédiatement à cette décision de l'empereur romain, c'est Augustin, qui est le premier à systématiser de façon, avec le langage qui ressemble en partie au langage philosophique, cette nouvelle théologie. Alors on peut dire qu'à partir de là, c'est un seul Dieu, une seule foi, et pas d'autre. Donc c'est le canon officiel. Par exemple, ce qui est remarquable ici, c'est à partir de là, les conciles sont présidés par l'empereur et non pas par des évêques ou des patriarches. C'est l'empereur qui va également arbitrer des débats théologiques et non plus seulement les conflits entre les citoyens romains. Donc c'est une date évidemment fondamentale. À partir de là, il y a quelque chose qui se ferme, puisque pendant les premiers siècles, il y avait pas mal d'interprétations divergentes du message qui venait donc d'apparaître dans notre monde. Augustin, c'est difficile de le résumer en une seule phrase. J'ai choisi celle-ci, que ce n'est pas une citation, je l'ai forcée moi-même. Je crois, même si je comprends. Donc, il est bien conscient que tout ce qui a été élaboré ici par les païens, et ce qu'on désormais on les appelle les philosophes païens, n'est pas irrationnel. Donc, on peut comprendre un certain nombre de choses dans notre monde, mais c'est quand même la foi qui doit être la première. C'est la foi qui dirige l'attitude du chrétien envers le monde. Donc, on a ce partage de païens et chrétiens qui se parfois s'énonce également en la formule classique de l'opposition entre la foi et la raison, qui va surtout animer tout le Moyen-Âge et la période qu'on a vue à travers la peinture et la musique. On peut lire l'histoire de l'opposition ou des essais de conciliation entre la foi et la raison à travers la peinture et cette charnière à laquelle on a assisté autour du 12e, 13e siècle. Là, on saute assez vite et on arrive donc à la période charnière qu'on a observé pendant deux séances, et on se trouve ici donc au moment de ce qu'on appelle la double vérité. C'est vraiment ce qui caractérise cette période, c'est-à-dire que la vérité qui correspond à celle-ci prend de plus en plus de place, de plus en plus de force de conviction, et on en arrive, alors selon les philosophes, et en particulier dans le cas des philosophes arabes, c'est particulièrement vif, à cette question de la double vérité. Est-ce qu'il y a deux vérités dans le monde, ou est-ce qu'on arrive à les concilier? C'est-à-dire, est-ce que les vérités qui portent sur le monde de l'esprit et les vérités qui portent sur le monde terrestre, donc qu'on a vu apparaître dans la peinture, est-ce que ces deux vérités sont conciliées? Par ailleurs, sur le plan épistémologique, également la question se pose, c'est-à-dire de la connaissance de ces vérités, est-ce qu'on accède à ces deux vérités avec les mêmes facultés humaines? Ou bien, pour accéder à ces deux vérités, faut-il mettre en œuvre des processus mentaux et intellectuels différents? La réponse, en général, c'est oui. C'est-à-dire qu'on sait qu'ici, parfois, on utilise le terme de vérité révélée, à laquelle on n'accède pas par le raisonnement et par la déduction logique, alors qu'ici, c'est la vérité rationnelle. Alors, révéler, c'est un terme qui ne décrit pas, c'est un terme trop connoté de catholicisme. On pourrait également dire une vérité intuitée, c'est plus exact, je crois. Donc, ce n'est pas une vérité dans laquelle on s'assied, qu'on attend qu'elle se révèle, c'est une vérité pour laquelle il faut également accomplir un certain type de travail, de façon à ce que l'intuition de cette vérité puisse s'effectuer. c'est pas quelque chose qui, dans lequel l'être humain est complètement passif. Il a besoin d'être actif, il et elle ont besoin d'être actifs, mais c'est une activité qui est différente de l'activité rationnelle et du raisonnement, et de la rhétorique et de l'argumentation. Alors, je mentionnais la figure de Thomas d'Aquin ici, qui est la figure peut-être principale, c'est-à-dire, c'est un des derniers à avoir tenté de concilier les deux vérités dans un système qui tient le coup du point de vue logique, du point de vue épistémologique. Par la suite, la question de la double vérité va plutôt se traduire dans la conscience, encore une fois, occidentale chrétienne, par une forme de schizophrénie. Elles vont se séparer pour longtemps et pour le moment, pour toujours. Et il y aura très peu de tentatives de les concilier. C'est pour ça qu'on peut dire que Thomas d'Aquin est une figure importante de ce moment-là. Alors, il y a plusieurs expressions ici. Il y a une que j'aime bien, le cru et le su, d'un philosophe contemporain qui s'appelle Gérard Fanon, dont on peut recommander la lecture pour toutes ces choses-là, et l'humour, d'ailleurs. Un autre philosophe contemporain parle de bilinguisme métaphysique, parce que la métaphysique n'est pas absente dans ce monde-là, n'est-ce pas ? Mais elle n'est pas la même que celle-ci. Le philosophe, c'est Sloterdijk, un philosophe contemporain cynique, un cynique qui se rattache à la tradition des cyniques, a écrit d'ailleurs un traité sur la raison cynique, qu'on peut lire également, mais qui demande un certain effort pour être suivi. Alors, la formule, on va essayer de trouver, j'ai essayé de trouver une formule qui ressemble à celle-ci, et la formule qui me semble la plus appropriée, c'est « je crois », donc il y a toujours « je crois » d'abord. Alors là, j'ai plus de place. Mais je veux comprendre. Donc vous voyez que ce registre-là, il remonte dans le plateau de la balance. Et plus précisément, chez Thomas, on le trouve formulé sous deux façons différentes. C'est « je crois pour mieux comprendre ». Et c'est les deux en même temps, je comprends pour mieux croire. Avec une priorité donnée pour le second, la foi est quand même le registre qui doit avoir priorité. Ensuite, ça se renverse. Quand on descend vers les cartes et tout ça, c'est plutôt je comprends pour mieux croire. C'est la première, chez Thomas, qui est la principale. C'est grâce à la foi qu'on comprend mieux le monde qui est autour de nous, et non pas l'inverse. Mais également l'inverse, dans une certaine mesure. Voilà. Alors là, on était au 17e, voyez, je saute, mais c'est bien d'avoir quelques étapes principales. 17e. Septième, en fait, c'est Descartes et le rationalisme. Et ici, c'est, je pense, donc, je sais tout. Je, humain, trop humain, je pense, et grâce à ma pensée, je peux tout savoir sur le monde, sur Dieu, sur l'histoire du monde, sur l'avenir du monde, sur la nature, etc. Donc, c'est cette arrogance intellectuelle qui finit par prendre le dessus. Vous voyez le mouvement, on sent qu'il y a ici un mouvement progressif où les deux registres vont acquérir un poids qui va changer à travers l'histoire. Et le 20e, alors pour le 20e, je l'avais déjà mentionné, je crois que c'est Nietzsche, la figure centrale. Nietzsche, la figure centrale, c'est la mort de Dieu et de la raison. Ce qu'on oublie un peu trop souvent. Donc Nietzsche prononce la sentence que ni l'un ni l'autre, ni lui, ne sont acceptables pour donner du sens à l'époque dans laquelle on vit, pour donner du sens à l'existence humaine. Je caricature, bien sûr. Il est philosophe quand même, donc il est à la recherche d'un sens. Mais ça permet d'avoir des images assez précises, peut-être assez faciles à se remémorer pour parcourir quand même deux siècles d'histoire. Et on peut évidemment ouvrir sur le 21e siècle, mais là je laisserai mon ami Corcuff ouvrir avec ses sociétés de verre, donc la fragilité contemporaine. Et plutôt que d'en parler dans ces termes-là, je vais en parler avec des images pour essayer de caractériser la période dans laquelle nous nous trouvons à la suite de ce parcours de notre conscience collective. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a là des mouvements. On peut également essayer de caractériser le mouvement dont je viens de parler, n'est-ce pas? C'est plateau de la balance, c'est pas très heureux comme terme. Il est évident que dans cette période-là, alors évidemment ce n'est pas tout à fait à l'échelle, on est plus de ce côté-là, parce que c'est la rationalité de la philosophie grecque, qui peu à peu décline après le début du christianisme. Et ici, le message chrétien met du temps à se systématiser et à se structurer de façon convaincante et de façon communicable. Mais ensuite, c'est dans cette période-là qu'il est prédominant, alors que ce registre-là figure en pointillé. Il ne disparaît pas complètement, mais il est en pointillé. À partir du 13e, on l'a vu en peinture, il y a quelque chose qui se produit, donc il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce de ce côté-là, mais qui mettra 2 ou 3 siècles pour apparaître à la lumière, et c'est avec Descartes finalement que il réapparaît de façon, disons, officielle ou de façon visible. Mais il était déjà, comme on a vu, que ça se prépare déjà au 13e siècle, 14e siècle, dans la musique, dans la peinture, mais et également on le trouverait dans la philosophie. Et là, avec la mort de Dieu et la mort de la raison, il semble qu'il y a quelque chose qui se prépare ici, avec la formule de Malraux que tout le monde connaît bien. Il y a un discrédit qui est porté sur cette période-là, sur ce rationalisme un peu extrême, un peu intégriste, on peut le dire, surtout au 19e siècle. Le scientifique du 19e siècle est critiqué au 20e et il est particulièrement remis en cause à la fin du 20e siècle, en particulier pour les conséquences qu'on peut observer dans son application à la technologie. Donc les grandes catastrophes technologiques, etc., qui commencent à semer de doutes sur la validité de ce registre-là. Donc vous voyez, on a une espèce d'oscillation. Il faut bien se garder d'en tirer des conclusions et de faire une philosophie de l'histoire à bon marché, mais plutôt que de le voir comme un... Enfin, il y a plusieurs historiens qui ont essayé de trouver une loi historique de cycle. L'idée, c'est pas ça, mais je pense qu'il faut plutôt la voir, ou il est plus sage ou plus judicieux de le percevoir comme une espèce de pulsation entre ces deux registres qui, pour les dessiner, j'ai utilisé des termes qui sont consacrés dans l'histoire, dans la littérature, dans la philo, mais qu'on pourrait chercher d'autres termes pour le caractériser davantage. Des termes peut-être plus qui se rapportent plus à l'expérience humaine. C'est-à-dire que cette pulsation est à l'œuvre dans l'expérience humaine. On pourrait dire ça. Par exemple, on parle beaucoup du sentiment religieux. Le sentiment religieux, avec la façon dont, ici après la séparation de l'Église et de l'État, la façon dont on en parle, on dit, bon, le sentiment religieux, ça relève de la sphère privée, ça n'a pas affaire à être discuté dans l'espace public, en particulier dans l'espace politique. Mais le sentiment religieux est un sentiment humain au même titre que les autres sentiments. Dans notre histoire, dans l'histoire de notre conscience occidentale, ce sentiment religieux a été confisqué par l'institution religieuse. Donc c'est l'institution religieuse qui a dit ici, ben, le sentiment religieux c'est notre affaire, c'est plus la vôtre. Alors qu'ici on était encore dans un flottement et les personnages qui ont écrit, qui se sont prononcés là-dessus, qui ont été d'ailleurs traités d'hérétiques pour cette raison-là, ont dit ben non, le sentiment religieux ça nous appartient à nous, êtres humains, et c'est quelque chose dans lequel on doit avoir une certaine liberté d'expression et d'expérience. Alors que là, elle a été confisquée, institutionnalisée, catholicisée, ce qui fait qu'il y a eu une défiguration de ce registre et dans laquelle nous vivons toujours aujourd'hui. C'est ma façon, en tout cas, de lire la chose, mais je ne suis pas le seul à le lire de cette façon-là. Donc il y a là une déformation très importante à cause de cette institutionnalisation, catholicisation de l'expérience religieuse, qui est une expérience humaine au même titre que les autres, que l'expérience esthétique, que l'expérience rationnelle. Donc voilà, c'est un peu rapide comme résumé, mais ça permet peut-être de mieux suivre ce qu'on va avoir maintenant, à savoir, donc je vais faire le même exercice que j'ai fait dans les deux séances précédentes, dans lesquelles j'ai caractérisé ce qui s'est passé à ce moment-là dans la conscience à travers la peinture et la musique, l'architecture. Et ici, je vais essayer de caractériser ce qui se passe en ce moment à travers ce qui s'est passé dans le domaine des arts décoratifs et du design à la fin du XXe siècle. Donc toutes les illustrations qu'on va voir datent des années 80-90, surtout les années 80. Donc c'est assez restreint dans l'histoire, mais c'est assez éloquent. On voit que les arts décoratifs nous disent quelque chose, je pense que je vais pouvoir le partager avec vous. Donc, je vais éteindre la lumière des choses. Mais avant ça, je vais revenir quand même sur la première, sur tout ce qui nous a amené à cette histoire. Vous vous rappelez que j'étais parti, en tout cas personnellement, dans ma recherche personnelle, sur l'histoire du design moderne au XXe siècle et de cette fameuse école de Bauhaus pour laquelle on pouvait être un peu perplexe quand on voyait que sur le manifeste d'ouverture de cette école en 1919 figurait une cathédrale gothique alors que les réalisations architecturales et dans le domaine du design de cette école sont un modernisme évident. Alors, je n'ai pas donné la réponse à l'énigme ou à cette question. Et la réponse se trouve ici, on peut l'expliquer ici. Donc, on a ici un chantier de cathédrale que vous connaissez certainement et qui est encore en construction aujourd'hui. Alors, le Bauhaus de cette cathédrale, c'est le bâtiment blanc à droite, en bas, espèce de hangar. Voilà un Bauhaus. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce hangar? Dans ce hangar travaillent toutes les personnes qui sont amenées à contribuer au chantier de la cathédrale. On a là les sculpteurs, ceux qui font les vitraux, les peintres, les architectes, etc. Ceux qui font les revêtements de murs, les carrelages. Tous les artisans, tous les métiers qui contribuent à la construction de la cathédrale se trouvent dans ce bâtiment. Ce bâtiment porte un nom déjà au Moyen-Âge, en allemand, et le mot allemand pour ça, c'est Bauhütte. Dans la ville de Bâle, aujourd'hui, la cathédrale de Bâle est en rénovation. Et vous avez des grands panneaux pour avertir les touristes et le public qu'il y aura des rénovations. Et que si on veut se renseigner sur ce qui se passe en termes de chantier, on est prié d'aller s'enseigner à la Bauhütte. Donc le terme est encore utilisé aujourd'hui. Et la Bauhütte, c'est un bâtiment comme ça qui ressemble à un hangar dans lequel on peut voir les plans et toutes les personnes qui sont en charge du chantier. Donc Gropius a choisi ce terme de Bauhütte, il l'a transformé en Bauhaus pour le moderniser un peu, pour dire, eh bien voilà, ce que je veux créer comme école, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et on va construire la cathédrale d'aujourd'hui, c'est-à-dire la cathédrale moderne. savoir l'environnement, l'environnement architectural, urbain et mobilier de nos contemporains et des générations futures. Il y avait dans ce projet, pourquoi avoir choisi la cathédrale, donc sur le manifeste, parce que autant du gothique et du temps précédent, il n'y avait pas de hiérarchie entre les différents participants au chantier. Alors que depuis la Renaissance, il y a une hiérarchie qui se produit dans le domaine des arts, n'est-ce pas ? Il y a d'un côté les beaux-arts, les arts supérieurs, et de l'autre côté les arts inférieurs. Les arts inférieurs, c'est les ferronniers, les maçons, les verriers, etc., les tapissiers, et les beaux-arts, c'est l'architecture, la peinture et la sculpture. Alors c'est contre ça que s'opposait, c'est à ça que s'opposait Gropius, en disant, désormais, on est tous au même niveau et on va tous contribuer à la cathédrale du modernisme. Le terme était utilisé dans le texte, cathédrale du monde moderne. Vous voyez, il y avait l'idée de démocratie parmi les contributeurs à ces chantiers, avec une autre énigme, la notion d'Apollon comme figure mythique dans un des livres importants de Walter Gropius, qu'il a publié par la suite, les obligations culturelles de l'architecte. Donc voilà, pour quand même revenir sur cette énigme, un petit mot sur les arts décoratifs de l'époque, des époques qu'on a observées dans les conférences précédentes. Alors pourquoi je n'ai pas choisi les arts décoratifs de le passage du roman au gothique, les arts décoratifs ? Eh bien parce que les arts décoratifs n'ont pas grand-chose à nous dire sur ce qui se passe dans la conscience et les transformations qui ont lieu à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont subordonnés à l'architecture. Donc tout ce qu'on a observé dans le domaine de l'architecture, on peut le retrouver dans le domaine des arts décoratifs, et les arts décoratifs ne nous disent rien de plus, et ne nous le disent certainement pas mieux que l'architecture. L'architecture est plus éloquente pour nous parler de cette charnière du 12e-13e siècle, pour ce passage du monde divin au monde humain, c'est-à-dire d'un monde où le projet est dans les mains de Dieu à un monde où le projet revient cette fois-ci dans les mains des humains. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas choisi les arts décoratifs. Ceci dit, on a des œuvres d'arts décoratifs qu'on peut étudier, que les historiens étudient et qui sont tout à fait intéressantes, on peut en faire une histoire. Mais cette histoire n'est pas aussi révélatrice que la peinture et la musique. Alors qu'aujourd'hui, on va le voir, ils sont beaucoup plus loquaces et beaucoup plus éloquents sur ce que nous sommes en train de vivre. Ouais, parfois, il y a même de la générosité qui était mise en œuvre. Ce n'est pas pour dire qu'on négligeait ou méprisait la générosité des artisans de cette époque. Alors, avant de vous montrer les images des années 80, je vais vous montrer quelques images de l'époque qui précède dans le domaine du design et de l'architecture. L'époque qui précède, c'est l'époque du Barroque, c'est l'époque qu'on qualifie de moderne ou moderniste. On la qualifie aussi de fonctionnaliste dans ce domaine. Pourquoi fonctionnaliste ? Parce qu'il y avait un canon, je vais reprendre un peu le terme, qui régnait dans tous les pays occidentaux dans ce domaine, qui voulait, et la formule qui résume ce canon, c'est la forme doit suivre la fonction. Alors, il y a beaucoup d'interprétations sur cette formule, je ne veux pas l'évoquer ici, mais ce qui la caractérise le plus, c'est son côté rationaliste. Donc, elle est rationaliste au sens où on l'entend depuis le XVIIIe siècle. Si vous voulez, c'est l'époque des Lumières, des arts décoratifs et du design. Mais l'époque des Lumières, des arts décoratifs et du design n'est pas le XVIIIe siècle comme l'époque des Lumières en philosophie, mais c'est le début du XXe siècle. L'époque des Lumières, le rationalisme dans le domaine de l'architecture et du design va s'étendre à peu près des années 1920-1930 jusqu'à la fin des années 70. Et c'est contre ce rationalisme que ce qu'on appelle le postmodernisme va réagir avec les formes qu'on va voir dans un instant. Alors, revenons au temps du modernisme. pour le caractériser. Là, je pense que c'est ce qui caractérise le mieux le modernisme. On dirait une classification des plantes ou des animaux comme on en trouvait au XVIIIe siècle. On dirait une classification cartésienne d'un phénomène, et c'est exactement le cas. Au niveau du contenu, au niveau de la forme, c'est le design graphique de ces années-là, c'est tout à fait représentatif. Donc quelque chose qui est très carré, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui est d'une clarté, d'une visibilité, en tout cas prétendue, la plus complète possible. Voici des images qui rappellent donc cette volonté de rationaliser la production artistique dans ce domaine. On était persuadé qu'on pouvait, du début à la fin de la conception d'un objet, suivre une méthode aussi rationnelle que dans le domaine scientifique. Par exemple, l'usager des produits, l'usager de l'architecture, était lui-même considéré comme étant un usager rationnel. Donc nous, ce qu'on appelle aujourd'hui les consommateurs, les usagers étaient considérés comme étant des êtres rationnels. Donc le choix pour le mobilier devait se faire selon des critères les plus fonctionnels possibles et exclusivement. D'où la disparition de l'ornement, la disparition des formes inutiles. Mais on sait bien, on savait déjà, mais on l'a négligé, parce qu'on était dans un monde utopique où on pensait que tous les habitants de la Terre seraient aussi rationnels que les architectes et les designers fonctionnalistes. Mais nous savons bien que quand on va choisir des meubles chez Ikea, ce n'est pas uniquement des critères fonctionnels qui nous indiquent. Les couleurs, les formes, les souvenirs, la nostalgie, il y a toutes sortes de choses. Un autre aspect de cette période-là, c'est son internationalisme. On a parlé de style international. Donc la même forme, le même objet peut convenir quelles que soient les cultures dans lesquelles on les accueille. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, et dans le domaine de l'industrialisation de ce type d'objets, des objets électroménagers par exemple, changent de forme, de couleur, selon les pays dans lesquels ils vont être vendus. Si vous êtes une entreprise qui fabrique des objets comme ça, pour vendre au Japon, ce ne sera pas les mêmes objets, pas les mêmes couleurs, pas les mêmes formes que si vous vendez en Amérique du Nord, ou en Europe de l'Ouest, ou en Europe de l'Est. Donc, ça voulait dire qu'un seul objet devait convenir à tout le monde. Puisque tout était rationnel, ça devait fonctionner de cette façon-là. Ça a quand même marché pas mal de temps. Donc là, je ne vais pas finir sur les images du type d'objets qui proviennent de cette période. Un design graphique aussi. Ça c'est des photos d'époque, mais on trouve dans les chantiers contemporains, on trouve encore, c'est encore présent, n'est-ce pas, aujourd'hui, il y a des consommateurs, des usagers qui sont séduits encore par ces formes et par ces objets. Une maison de trompeuse, par exemple, on peut hésiter, si on va descendre sur une maison de l'histoire de l'Europe, qui sont connues, n'est-ce pas, on a ici d'autres caractéristiques de ce style international qui est la transparence. L'idée, c'était de rendre des objets tellement fonctionnels, tellement rationnels, tellement scientifiques, tellement parfaits du point de vue de la raison humaine, qu'ils s'effaçaient de notre... Ils ne nous encombraient plus, tellement ils étaient parfaits. C'était l'utopie de l'utopie. On connaît les conséquences du fonctionnalisme en urbanisme. À Nîmes, on est bien servi pour ça. Et ça, c'est les projets d'époque. On est dans les années 30. On a vu fin des années 20, début des années 30. Alors, donc ça, c'est jusqu'en 70. C'était le canon dans toutes les écoles de design et d'architecture dans le monde. Il n'y avait rien d'autre. Et là, à la fin des années 70, on voit apparaître des objets assez soudainement. 78, 79, 77, ça commence à faire. On voit apparaître des objets comme ça, une théière. Ça, c'est vraiment une révolution. Quand on a vu ça dans l'école, on s'est demandé de quelle planète venaient les objets et de quelle planète venaient les interstellaires. Un vase.
C'est aux USA que c'est né, là ?
Non, en Italie. Ici, on est en Italie, surtout. C'est un mouvement qui s'est appelé Memphis. Pour des raisons, je n'ai pas le temps de raconter l'histoire. Memphis en 77, avant elle s'apportait d'autres noms, et c'est une école italienne qui ensuite s'est répandue à travers toutes les écoles. Ça a mis du temps pour être acceptée, tellement les propositions étaient révolutionnaires. Ça, c'est des propositions pour les textiles. Ça prend aussi la forme de manifeste. Il y a un discours. Pas uniquement des objets sans discours. Donc il y a une volonté de réécrire l'histoire ou d'écrire une autre histoire. Ça, c'est un des manifestes qui a été exposé dans une biennale. C'est pas un autodafé, mais c'est assez violent, n'est-ce pas, comme proposition, avec l'icône de la chaise moderniste qui est au sommet de l'hôtel. Un autre événement qui a été retenu surtout par tous les architectes ont daté précisément à la seconde près l'année de la naissance du postmodernisme. C'est l'année où on a démoli cet ensemble de logements à Saint-Louis, au Missouri. Vous voyez les bâtiments en bas à gauche, 20 ans après de l'avoir construit, parce que c'était devenu inhabitable. Encore une fois, je fais référence parce qu'on tourne la ville, on commence à démolir ces choses-là. Et là, on est 20 ans après. Donc, ils ont fait sauter la chose. Cette photo a fait le tour de toutes les écoles d'architecture du monde occidental. Et c'était, je ne me rappelle plus la date, exactement à l'heure exacte. Et les architectes s'amusent à dire c'est ce jour-là, à cette seconde-là, que le postmodernisme a commencé. En tout cas, que le modernisme s'est éteint. Voici encore quelques images qui sont très évocatrices de la violence, ou en tout cas de la radicalité des propositions par rapport aux propositions précédentes. Ça, c'est construit par contre. Donc le bâtiment est vraiment en orbite, c'est un centre commercial. Ça, c'est un collage. C'est un bâtiment de Bismarck de Moro, un des architectes du Maroc. Ça, c'est en. Dans le commerce, donc, la proposition est tout à fait sonore, tout ce que je viens de dire en d'autres termes, hein, mais encore une fois, de façon assez violente. Ça, c'est peut-être l'icône de cette période qui s'ouvre, donc dans les années 80. L'auteur, c'est Torre Sotsas, qui est mort il y a peu de temps, et qui était le leader de cette école italienne, Memphis. Sotsas, peut-être ce mot. Non, c'est un Italien de la partie autrichienne de l'Italie au nord-est, Sotsas. Et Torre. Une grande figure de cette période. Il vient de me parler.
C'est des machines à écrire.
Pardon ?
C'est des machines à écrire.
Oui, il a commencé à travailler chez Olivetti. Il a fait un travail super moderniste, fonctionnaliste, pour les premiers ordinateurs qui étaient produits dans les années 50. Et ensuite, bon, il a eu plusieurs expériences personnelles, biographiques, il a voyagé en Californie, il a eu des peines d'amour, etc. En tout cas, ça bouillonnait un petit peu, et en 77, il fonde Memphis. Il fait cette table, et cette table porte un nom, c'est « Les structures tremblent aussi ».« Les structures tremblent aussi », donc c'est très iconique pour dire que les structures de la raison tremblent. On est dans une période, n'est-ce pas? C'est la fin de la raison, la fin du rationalisme, en tout cas dans notre domaine, mais vous voyez que la coïncidence est quand même assez étonnante. La fameuse formule que j'ai citée tout à l'heure, form and function, c'est-à-dire que la forme des objets devait résulter de l'analyse fonctionnelle de leur usage, a été, n'est-ce pas, pervertie. La fun and function, l'hédonisme est une des dominantes de ce mouvement également. Donc, comment on va le voir? Vous voyez, le plaisir de l'objet. Donc, on retrouve une dimension affective une dimension émotive, une dimension évocatrice également, historique. On a une certaine nostalgie pour le passé, etc., qu'on reprend à ce moment-là. Il y a des textes assez intéressants à lire sur la période. En voici un, Andrea Branzi, encore en italien, architecte qui est toujours vivant et qui continue à écrire. Il parle d'un nouvel humanisme, un humanisme dépourvu de scientificité, ouais, c'est clair. Ça, c'est dans les années 70, toujours. Un humanisme hybride, polycentrique, éclectique. Ça, c'est vraiment, on n'est plus là-dedans. On n'est plus là, on n'est plus dans le rationalisme. On est chez Nietzsche, quoi, d'une certaine façon, pour aller vite. Où le designer opère comme concepteur pour les autres, mais aussi, et c'est ça qui est important, comme témoin de la composante privée et autobiographique du projet lui-même. Là, je renvoie à la conférence de André, n'est-ce pas, sur l'intériorité qui s'exprime de façon individuelle et biographique dans les œuvres d'art. Donc, il insiste sur la possibilité et le droit aux artistes de s'exprimer personnellement dans leurs œuvres. Alors que dans le rationalisme, on avait une production plutôt anonyme. Le designer s'effaçait derrière la rationalité de son travail. L'idée, c'était de s'effacer comme les ingénieurs s'effacent derrière leur produit en général. On ne connaît pas, ils ne signent pas leur produit. Dans le postmodernisme, tout est signé. On connaît les auteurs, on les connaissait précédemment aussi, mais ils ne se mettent pas en avant. Donc là, ils se mettent en avant et sont donc du projet lui-même, de son droit à être l'unique et premier juge de la qualité politique de son travail et de ses passions civiles. C'est assez clair. Un humanisme où le concepteur redevient le maître de tous les instruments productifs à sa disposition. Donc il y a ce caractère individualiste que la musique, donc, qui naît à ce moment-là, n'est-ce pas, et qui ici est exacerbée et qu'on a très bien entendu dans la musique. Alors, les thèmes, j'ai regroupé, alors j'ai fait un choix assez important. Là, je vais dérouler les images très vite parce que j'en ai pas mal. Et je les ai regroupés selon un certain nombre de thématiques ou un certain nombre de motifs ou un certain nombre de figures qui sont caractéristiques de cette époque. Une des figures dominantes, c'est le penché et l'oblique. Donc, on s'écarte de la verticale et de l'horizontale, on ne veut plus rien de carré. Donc, on a là des travaux qui suggèrent donc, une réflexion consciente sur la question de la verticale et de l'horizontale. C'est-à-dire, on dit voilà, c'est oblique, ça, on dirait que ça tombe, mais ça marche quand même. C'est-à-dire, on peut ouvrir les tiroirs, on peut s'en servir comme une armoire. Donc, ça ne met pas en question l'usage, c'est peut-être un peu plus difficile, un peu plus encombrant, plus difficile à ranger, bon, etc. Mais, voilà. N'oubliez pas la signature, hein. C'est ça qui compte quand même. Si ça ne fonctionne pas très bien, ce n'est pas grave, pour eux que ça soit signé. Donc, voilà, je vais passer vite. Là. Ça, c'est le plus connu, Philippe Starck. Voilà, Philippe Starck, c'est la signature, hein, celui qui aurait pu écrire le texte précédent. Encore sur le sas, la muse. C'est un clin d'œil à Corbusier, pour lui dire Corbusier était mort. Ça aussi. Après, l'oblique, parfois c'est un peu plus complexe, voyez, on est dans le rond plutôt que dans le droit, c'est une bibliothèque. Là aussi, il faut dire, ben, ça n'a pas besoin d'être droit pour que ça marche. Voilà, donc ça c'est une figure importante du postmodernisme. Une autre figure, c'est le mou. Là, on parle en philo aussi de la pensée molle. On a du mou également en design. Téléphone mou. Autre figure, le flou. Alors, le flou, c'est le translucide. très utilisé dans les années 80-90. C'est-à-dire, c'est ni transparent, ni opaque. C'est ni blanc, ni noir, c'est entre les deux. On est dans le flou, dans l'incertain, et c'est en design, c'est surtout les matériaux utilisés, ce côté translucide des matériaux, où vous allez reconnaître des icônes que vous connaissez tous. C'est impensable dans la période précédente. Mais ça, c'est un fait le tour du monde. Et ce qu'on a surtout relevé, en tout cas dans les milieux spécialisés, c'est cette texture particulière qui s'enlève méduse. Donc, également, une méduse, ça n'a pas vraiment de forme. C'est, on est dans le flou, dans le goût, dans l'incertain, dans le palais figuré. Autre figure, surtout en design graphique, illisible. Le monde est illisible, n'essayez pas de le rationaliser, c'est pas possible, c'est trop complexe. Alors, il y a beaucoup de propos, encore aujourd'hui, hein, dans le design graphique, on utilise beaucoup ces choses-là qui se sont du jour au lendemain presque imposées dans le domaine professionnel. Donc, c'est le graffiti aussi. Hein. On est loin de la composition carrée que j'ai montrée précédemment et de la clarté de lecture. Ce n'est pas de l'avant-garde, ça c'est du commercial qu'on trouve dans les journaux, dans les revues. On n'est pas chez les artistes avant-gardistes, n'oubliez pas qu'on est quand même en design industrie, en design. C'est-à-dire que ces choses-là ensuite sont fabriquées par des entreprises, sont vendues sur le marché, et pour que l'entreprise continue de tourner, il faut que ça se vende. Donc c'est acheté par les consommateurs, pas tout de suite.
Ils gagnent sa vie.
Pardon ?
Gagnent-ils sa
vie ? Ah oui, ils gagnent leur vie, bien sûr. Bon, au début, c'était un peu réservé à une élite, tout comme les propositions du Barros étaient réservées à une élite, on leur a assez reproché, ce qui est normal dans les premières années. Mais très rapidement, ça s'est répandu dans la consommation. Vous trouvez chez Ikea des propositions pour se prendre maintenant en temps à gagner. Alors, pour les affiches, par exemple, c'est un peu problématique, parce que c'est difficile de savoir à quelle heure est le concert, dans quelle salle, dans quelle... Mais c'est signé, n'est-ce pas? Il y a l'individualité de l'artiste. Et là, je pourrais en montrer des centaines. Mais on trouve également l'illisible dans le domaine du mobilier, où on trouve des objets, comme le premier que j'ai montré, la théière. Allez savoir ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. C'est un cendrier, une sous-tasse, on ne sait pas trop. Ça aussi, on ne sait pas si c'est à l'envers, où est le haut, où est le bas, à quoi ça sert, c'est à bas. Sauf ça, c'est pas correct. Là encore, c'est un radio avec des haut-parleurs. Pas évident. Si on enlève le fil. Donc c'est cette illisibilité de la fonction. Vous voyez, on n'est plus dans la forme, suit la fonction. Dans le fonctionnalisme, on pouvait lire, en voyant l'objet, quelle était sa fonction et comment l'utiliser. Ce qui, dans certains cas, est quand même pratique, en particulier dans les cas où ça peut être dangereux de faire une mauvaise lecture de l'objet, d'appuyer sur le mauvais bouton, ou bien de tourner à mauvaise manière. Ça, les postmodernes, parfois ils ont tendance à le dire. Alors là encore, deviner quel est l'objet, c'est une espèce d'ovni qui viennent, on ne sait pas trop. Mais dans lequel il y a une virtuosité technologique remarquable. Hein. Il y a des outils de production extrêmement sophistiqués, des matériaux bien maîtrisés. Tout ça, c'est maîtrisé et ensuite, c'est vendu.
C'était quoi
C'était quoi Je ne sais plus. Là non plus, je ne sais plus si c'est une théière ou une radio, ou une photocopieuse, ou une imprimante. Ça ressemble plus à un téléphone, mais on n'est pas sûr parce qu'on ne voit pas. Ou un fax,
une radio.
C'est fabriqué où ça?
Je ne sais plus. Oui, la lecture de l'espace aussi. On est désorienté. L'espace devient illisible. on ne sait plus où commence le sol, où commence le plafond, les murs ne sont pas droits, est-ce que c'est déjà du plafond, et on a du mal à se repérer. Alors c'est très utilisé en architecture, ce n'est pas non plus toujours clair avec bonheur, parce que dans certains cas, comme dans un hôpital par exemple, c'est important de pouvoir savoir où on est, etc. Également des modes de l'espace et des formes. Sur les plans également, on trouve beaucoup de travail des architectes sur la forme des plans, c'est-à-dire la projection sur le sol de ces bâtiments, c'est extrêmement complexe. C'est une espèce de baroque moderne et poussé à l'extrême. Une autre figure, alors j'ai fini ce carrousel, pardon. Ça vous amuse dans le temps de temps. Une autre figure, c'est la figure du graffiti, la figure du gribouillage, la figure du pas fini. La figure du brouillon, des formes non complétées. Là, c'est des propositions de papier peint. Là encore, des propositions de relèvement du niveau. Ça, c'est le fils ici. Vous voyez, dans le graphisme, c'est plus de trucs de l'esquisse. C'est une figure très prégnante dans le postmoderne. On esquisse les choses, on les suggère. On est donc, il y a un problème de lisibilité quelque part également qui se manifeste. C'est le flipper, le froisser. Tout ce qui est contre le classique, le bien droit, le bien repassé, le bien net, le bien lisible. Ici, par exemple, le revêtement, c'est du galba, mais du galba brut. Il n'y a pas de souci d'embellir la chaise. Et pourtant, c'est une chaise qui est assez chère, qui était vendue dans des magasins chics. Mais c'est vraiment du galva, comme vous trouvez les clôtures ou les tôles ondulées pour les usines. Donc, c'est un manque de finition. Ici, c'est dans les propositions d'un autre designer en arabe connu. C'est un tôle soudé. Alors, on voit, je n'ai pas la photo, mais ce sont les esquisses. On voit très bien les soudures, hein, c'est fait exprès que les soudures, ça déborde un peu. Et ensuite, la finition des formes et tout ça, c'est fait à la masse. Il prend une masse, là, puis il les défonce pour avoir quelque chose qui ressemble à un fauteuil sur lequel on peut s'asseoir. Il est directeur d'une grande école de design. Vous voyez, là encore, on est dans le... Il y a également ce côté brut de décoffrage des choses. Ça, c'est assez également évocateur. C'est cassé, quoi. C'est pas fini, mais voilà, ça marche quand même. C'est un peu plus violent. La palette, elle est simple. Vous voyez, là aussi, on prend des chutes de bois, on met une grosse chaîne autour, on serre un peu, et ça fait un tabouret, ou un livre, ou une table de salon. Autre figure, alors, on a beaucoup travailler sur les piles des meubles, c'est-à-dire sur l'assise, n'est-ce pas, sur l'assise de la raison, on critique, on a déjà vu l'oblique, mais là, il y a d'autres exercices dans lesquels on se moque des pieds. C'est-à-dire, on fabrique des objets qui, si on les voit, on se dit, mais ça ne peut pas, ça ne tiendra pas du tout, si je m'assieds là-dessus, ça va tomber. Donc, on joue beaucoup avec les pieds. Là, il y a des figures remarquables, qui existent toujours dans le commerce. On joue par exemple sur le fait qu'il n'y a pas de raison qu'une table et les quatre pieds d'une table soient les mêmes. On peut avoir quatre pieds différents, en matériaux différents, avec des couleurs différentes. Qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que la chaussette gauche et droite chez les jeunes soient de la même couleur. Ou que le basket droit et le basket gauche soient de la même couleur. Pourquoi ? Pourvu qu'il y ait des baskets. Donc ici, c'est un peu le même. Cet esprit un peu où on se moque de recherche de symétrie, de recherche de clarté, encore une fois, dans la lisibilité. Là, on exagère, on dit, vous voyez, les pieds massifs. C'est comme pour se moquer de l'époque précédente. Là encore, attention, on a des gros sabots. Vous voyez, on les voit avec leurs gros sabots, les modèles. Bon, je ne discute pas la dimension esthétique de ces choses-là, ce n'est pas le milieu ici. Je discute la dimension polémique. Voilà d'autres propositions encore pour les pieds avec des métaphores en plus de son cas. Autre figure, celle-là elle est moins perceptible, c'est le tendu. Quand on joue avec des formes qui suggèrent qu'on est dans une période où les tensions sont extrêmes et que si on tire un peu, ça va assez. Donc on n'est pas dans une période de sérénité où tout le monde utilise la même logique, la même vision du monde, la même façon de raisonner. On est là dans quelque chose où il y a beaucoup de polarité, donc ces tensions pourraient être visibles dans les compositions, dans les formes en particulier. C'est très très net en plusieurs objets. Allez voir, on est un peu stressé. On n'a pas envie de mettre là, c'est pas possible. Mais bon, c'est vrai que l'appréciation esthétique a suivi. Donc on s'habitue à ce type d'esthétique et ensuite ça fait partie de notre monde et on se demande comment on a pu être sensible à l'esthétique de la période précédente. Et ça, c'est des questions qui relèvent plus de la sociologie du coup. Peut-être Philippe nous en parlera. On a encore le temps du coup. On voit mal, mais en dessous, il y a même des cadres, n'est-ce pas, qui tiennent bien ensemble. Okay. Foster, par exemple, l'architecte du carré d'art, il travaille beaucoup dans ses... Je crois même que c'est lui. Il y a beaucoup de cadres tendus dans ce qu'on dit. Donc, on travaille plus, en termes mécaniques, plus sur la tension que sur la compression. La compression, c'est la stabilité. La compression, pour que quelque chose tienne en compression, il faut que ce soit droit. Vous ne pouvez pas faire quelque chose en compression qui soit en oblique. Il faut y mettre, comme dans les ponts par exemple, il faut y mettre des câbles à l'intérieur du béton pour avoir du béton ce qu'on appelle pré-contraint. Sinon, ça casse. Donc, c'est un travail également au niveau de la résistance des matériaux qui est tout à fait intéressant et qui est assez difficile à réaliser. Mais on sent que la stabilité de tout ça, c'est assez critique. On utilise des matériaux technologiques extrêmement nouveaux aussi qu'on utilise dans l'aérospatiale pour faire des objets extrêmement minces. On se demande comment ça tient, mais par contre, la résistance de ces matériaux comme le titane, la fibre du carbone, qui sont utilisés dans l'industrie militaire, la technologie aéronautique et spatiale. Une autre figure, là vous voyez le nom d'André Brandt, c'est encore, c'est la figure du primitivisme. Donc là, c'est pas retour aux cathédrales, c'est retour aux cavernes. On veut tout oublier, on veut oublier tout ça, on revient aux cavernes. Il y a deux figures dans ce type, dans cette diapo, il y a l'image donc, qui est le retour au brut et au naturel le plus immédiat. Et il y a le mot domestique, c'est-à-dire c'est la volonté de rendre les objets quotidiens comme des animaux domestiques. C'est-à-dire d'établir un rapport affectif avec les objets et non plus seulement fonctionnel, fonctionnaliste et rationnel. Donc on veut que ça fonctionne, que nos tiroirs de cuisine ouvrent bien, que nos placards ne soient pas trop bruyants, qu'on puisse bien manger des choses. Mais également, on veut un attachement affectif aux objets, et pour cela, il faut travailler la forme. La forme, au sens le plus large du terme, ça inclut les couleurs, les textures, les revêtements, les détails de finition, les détails d'assemblage, et la forme de base. Alors, dans le domaine donc, pour le registre du retour au brut, donc ça, c'est les propositions de Brandt, vous voyez, Oui, la fourrure, le bloc du roi, coupé. On trouve dans des ambiances de ce type. Une combinaison avec une peau animale. Les animaux sont très présents dans la iconographie de ce qu'il y a. Retour de base plutôt primitémisme aussi.
C'est lui Brahmsi?
Pardon?
C'est lui Brahmsi?
Non, c'est pas lui. Non. Figure suivante, c'est le côté domestique des objets. Donc, on leur donne des figures anthropomorphes ou zoomorphes, comme des animaux domestiques. Et vous voyez, les objets parlent. Ils nous parlent et ils établissent une conversation avec nous. Donc, on s'y attache. Il y a tout un courant qui dit que c'est une bonne chose de faire des objets auxquels on s'attache pour le développement durable. Ça nous évite de les jeter pour les remplacer. Si on a des objets purement rationnels, on ne s'y attache pas, donc ça ne nous dérange pas de les jeter pour en acheter un autre. Enfin, c'est ce genre de discours qu'on entend pour justifier un expressionnisme formel qui n'a pas de justification fonctionnelle, rationnelle, tout de même. Donc ça, on trouve là, dans les magasins de design, la ligne, on en trouve encore beaucoup. On a beaucoup vu ces objets, des débouchons, des carafes. Vous voyez, un petit look, mademoiselle. Conversation. Les attitudes. Alors parfois, ça tombe un peu dans le Mickey Mouse, hein, dans la caricature, le cartoon. Vous connaissez ces objets. Donc c'est le côté anthropomorphe mais ludique. Encore une fois, pour dire, il ne faut pas avoir peur des objets. Ce n'est pas des objets scientifiques, froids, rationnels. C'est des objets domestiques avec lesquels dont on peut s'entourer sans aucun risque de ne pas les comprendre. Ils sont proches de nous, proches de notre enfance. Ils nous font rire, ils nous amusent. Encore une fois, ce ne sont pas des objets uniques, ce sont des objets de grande diffusion. Ce côté cartoon, ce côté s'amuse, les objets nous amusent, il n'y a pas de raison que la vie soit trop sérieuse avec un environnement fonctionnaliste. Dernière figure là que j'ai choisie, en fait je ne les ai pas choisies, j'ai étalé un nombre assez considérable d'images de cette époque et ces catégories, ces figures ont émergé du corpus. C'est l'hybride. L'hybride, c'est très typique du postmoderne également dans la pensée. C'est-à-dire, c'est l'époque des minuscules et des pluriels dans le domaine de la pensée. Le postmoderne, il écrit vérité avec un B majuscule, il écrit vérité avec un petit B, et puis un S au bout. La beauté, pareil, il n'y a pas plus de majuscule, le bien, le beau, etc. Fini les majuscules, on est dans des hybrides, alors on mélange toutes sortes de traditions, on essaye de faire une espèce de ratatouille, et on se dit, voilà, peut-être que c'est plus riche, c'est plus complexe, ça correspond mieux à la complexité humaine, parce que nous ne sommes pas que des animaux rationnels, etc. Voilà un peu le discours qu'on retrouve derrière. Alors, il y a un gros travail sur l'hybride. Donc, la juxtaposition d'éléments qui, apparemment, dans une perspective un peu classique, ne vont pas ensemble. Mais qui pourtant tiennent ensemble et sont vendus en magasin. Donc commercialement, ils tiennent également la route. Pas toujours. Vous voyez le mélange de matériaux. C'est impensable, ça. Ça, si en 1960, un étudiant ou une étudiante propose ça dans son projet, le prof il lui dit c'est pas bon. C'est interdit de mélanger les matériaux. C'est contraire à la vérité du matériau. Il faut être honnête c'est des termes qui étaient vraiment utilisés. Il faut être honnête, on ne peut pas cacher un vêtement, on ne peut pas prendre du bois et lui mettre un revêtement dessus qui le fait ressembler à du métal. C'est tricher avec le matériau. Ça, c'est les termes qui étaient utilisés dans cette volonté d'être entièrement transparent chez les fonctionnaires. Donc, on a des propositions de ce type. Là, c'est un mélange de textures qui, dans une tradition classique, ça n'a pas de sens. C'est impossible. Tu ne peux pas mettre une veste rayée avec une chemise à poil. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, tu peux pas mettre telle couleur avec une autre. De quoi t'as l'air. Donc voilà pour les figures du postmodernisme. Il en reste un dernier, j'en ai encore une. Ah, le dernier, c'est la dérision du moderne. Donc on fait de la citation du moderne, on s'amuse beaucoup, on rigole beaucoup. Et on critique, vous voyez, par exemple, cette collection de Memphis s'appelle Bauhaus. Donc c'est vraiment de la dérision. Fin des années 70. Ici, on a un travail sur Mondrian et Rietveld, l'architecte hollandais contemporain, un des modernistes bien connus, avec un détournement donc, de ces compositions avec l'oblique. Ici, c'est un autre détournement qui est iconique par excellence. C'est un tabouret guéridon. C'était le premier exercice qu'on faisait faire à l'école d'Ulm que j'ai mentionné, qui est le temple du fonctionnalisme dans les années 50 et 60. C'est là que le canon a été mis au point et systématisé et méthodologisé. Et que, par exemple, les rasoirs grands et tout ça proviennent également des années qui ont été diplômés de cette école. Donc le premier exercice, c'est fabriquer ce tabouret, vous voyez, sur lequel ils sont assis, qui servait en même temps de plateau pour transporter. Parfaitement rationnel, super fonctionnel, aux lignes épurées, et pour s'en moquer, il y a un designer contemporain qui a fait le même travail avec un nom qui en allemand qui envoie à l'auteur du projet. Là encore, un travail sur modernisme de Mondrian et un travail de dérision de Corbusier, c'est un fameux de Corbusier. Et ici, il est en rond avec en fer à béton et en béton. Donc, celui de Corbusier était bien en béton. Donc voilà des grandes figures qu'on retrouve plus ou moins, peut-être pas avec les mêmes termes, je crois, dans la pensée contemporaine, dont je crois Philippe va nous parler, avec d'autres termes certainement, et qui nous donnera l'occasion de prendre la température de cette qualité particulière de la conscience occidentale chrétienne, puisqu'on est encore dans cette tradition aujourd'hui. J'aurais voulu, si vous me permettez, de prendre 5 minutes pour conclure avec une proposition de révision de cette vision de la chronologie. La façon dont c'est présenté ici, c'est une façon assez canonique, c'est la façon qu'utilisait par exemple Marjolaine dans son cours. C'est une façon d'opposer la foi et la raison qu'on trouve dans la plupart des ouvrages de philosophie. Je crois que pour avoir une meilleure lecture de ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas rester avec ce modèle. Ce modèle est trop manichéen. C'est-à-dire que de travailler avec deux pôles opposés comme ça, ça nous enferme dans un système. Et finalement, on se trouve ici, malgré ce qu'on dit et malgré ce qu'on croit, encore les continuateurs de toute cette tradition. Donc, malgré ce qu'on croit, on est encore les héritiers de la scolastique médiévale et de cette romanité, de cette institutionnalisation religieuse romaine de la dimension religieuse de l'être humain. Ce que je propose, et ça c'est sous forme d'hypothèse de travail, c'est de voir plutôt le déroulement de l'histoire sous la forme suivante.
La référence centrale, qu'on se trouve à droite ici ou à gauche, c'est quand même le déroulement de la dogmatique chrétienne, et principalement catholique, et par la suite également protestante. Donc c'est toujours par rapport à ça qu'on se situe. Soit pour la contester, soit pour être dedans et dire, ben voilà, ça continue, il n'y a pas de raison. Alors, ça nous rend aveugles à quelque chose. C'est-à-dire que l'histoire conventionnelle ou l'histoire convenue nous montre l'opposition donc entre cette théologie dogmatique donc, qui se construit au fil des conciles qu'il enregistre dans les textes et ce côté qui correspond à celui-ci qui est le côté du rationalisme et qui est la tradition qu'il faut appeler agnostique, donc la volonté dans une perspective agnostique de contester le centre, si vous voulez, par rapport auquel on s'est situé depuis le 4e siècle. Donc, dans notre tradition dont j'ai essayé de faire l'histoire. Alors, il y a plusieurs termes ici qui sont utilisés selon l'histoire. Parfois, si on se réfère aux Grecs, c'est les épicuriens que l'on retrouve ici. On trouve également des termes comme... Bon, parfois, l'agnosticisme se transforme en athéisme, quand il est un peu plus extrême. Le matérialisme également se retrouvera ici. Donc ça, c'est l'histoire que l'on connaît, qu'on raconte, qu'on trouve dans les livres. Mais il y a une autre histoire, c'est-à-dire cette tradition ici, elle est contestée également sur l'autre versant. Et cet autre versant, cette tradition-là, qui est la nôtre, la tradition de la raison, elle est aveugle à ce qui se passe de ce côté-là. Si vous voulez, on peut dire qu'il y a ici une forme d'anarchisme ou de refus de cette tradition qui est l'histoire convenue du progrès de la raison dans notre conscience. Mais il y a ici un espèce d'anarchisme de l'esprit qui est complètement occulté. Il est occulté pourquoi ? Parce que la théologie dogmatique a lutté de façon extrêmement virulente contre cette tradition. Et cette tradition, ici, on ne s'y intéresse pas. Alors, en tout cas, je crois qu'on ne s'y intéresse pas suffisamment, aujourd'hui en tout cas, parce qu'on dit qu'on fait l'amalgame, on dit tout ce qu'il y a à partir d'ici, là, tout ça, c'est pas bon, c'est pas la peine de s'y intéresser. C'est tellement étranger à notre façon de voir le monde que ça ne peut pas être intéressant. Ma proposition, je crois, pour quelqu'un qui essaie de comprendre l'époque dans laquelle on est et pour essayer de s'orienter dans les années qui viennent, pour les générations qui viennent, c'est peut-être de s'intéresser un peu plus à ce qui s'est passé ici au cours de l'histoire, où il y a un certain nombre de noms, qu'on peut trouver la proposition un peu excentrique, mais je crois que cette façon ternaire de voir les choses, ça nous sort du manichéisme dans lequel on est enfermé ici. Ça nous sort du droite-gauche en politique, ça nous sort du noir-blanc, ça nous sort de toutes sortes d'enfermements, qui n'a pas de fin. Ou alors on va continuer à osciller entre la gauche et la droite. Et là, on a quelque chose qui est... Donc c'est ici, c'est la vision qu'il faut appeler non-agnostique, mais qui conteste le dogme catholique aussi, et protestant, institutionnalisé. Il y en a eu. Et ils ne sont pas connus parce que les traces ont été complètement effacées, en tout cas dans les premiers siècles. Les traces ont complètement disparu. C'était trop dangereux pour l'Église catholique, en train de se construire, de laisser cette liberté du côté de l'esprit, c'est-à-dire du côté qui appartient, d'après eux ici, d'après cette tradition, à cette tradition. Alors, les termes qu'on peut trouver ici, parfois les spiritualistes, évidemment, spiritualistes, donc on est dans le registre de l'esprit, disons ici de la matière, je mets des guillemets à tout ça, pour prendre une polarité assez classique,
les bouddhas là.
On trouve, j'y arrive, les déistes, les panthéistes. Donc ce sont tous des personnages qui sont croyants, et je mets beaucoup de guillemets à croyants, parce qu'encore une fois, je trouve que le terme ne convient pas à l'effort de l'esprit qui se trouve ici, et, mais qui contestent la façon de régir, de régenter la vie spirituelle de l'être humain, individuel et collectif. Qu'est-ce qu'on trouve encore ici? Si on se réfère aux Grecs, on a plutôt la tradition d'Aristote qui est là. Pas lui, pas Aristote lui-même. Aristote lui-même, il est là. Il n'est pas agnostique, Aristote. Mais les avéroïstes, les aristotéliciens de l'histoire ici, sont classés ici, alors que les platoniciens seraient plutôt là. Les mystiques sont ici. Donc il y a toute une épistémologie du mysticisme. Donc, à laquelle, ici, on n'est pas très, très intéressé, parce que c'est tellement étranger au rationalisme qu'on pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Ne serait-ce que par, par respect envers l'intelligibilité du monde, je pense qu'on devrait, on pourrait s'y intéresser davantage. Je d'ailleurs m'apprête à le faire moi-même, puisque je me suis senti trop enfermé dans ce modèle. Et c'est une façon. Alors, il y a des noms ici, mais là, je n'ai pas le temps d'en lire. Les premiers, Origène, Denis, l'aréopagiste. Alors, Bouddha, je ne le mets pas parce qu'on n'est pas dans la tradition occidentale chrétienne. Là, je parle de la tradition occidentale chrétienne. Bouddha, c'est autre chose, on pourrait en parler, mais c'est, ça ne rentre pas dans ce modèle. Après, il y a Eckhart. Ce sont des gens qui ont été soit excommuniés, soit interdits. Même Thomas d'Aquin a été interdit d'enseignement. Eckhart a été interdit également d'enseignement et de prêche. Et pourtant, c'est des statues importantes de la tradition chrétienne et catholique. Bon, mais j'ai pas le temps de tous les mettre. Dans les philosophes contemporains, il y a un certain nombre de noms ici. Dans la tradition française, par exemple, Maine de Biran, qui a Brunswick. Ben, c'est des philosophes qu'on n'étudie pas beaucoup, je crois. En tout cas. Au XXe siècle, on a tous les personnalistes qui ont fondé une revue qui a le titre Esprit, c'est assez révélateur. Donc il y a une recherche, il n'y a pas un abandon d'une tentative. Il y a les cathares ici, les frères de la. Il y a l'équivalent dans le monde musulman, les frères de la vie commune. Il y a des hérétiques du côté des protestants qui également ont souffert, etc. Donc il y a toute une tradition ici qui, de façon assez intéressante, conteste ce tronc central qui est quand même toujours la référence, même encore aujourd'hui. Alors que celle-ci est beaucoup plus connue. Donc il y a quelque part, si vous voulez, sauter par-dessus ça, là on est d'accord que là c'est figé, c'est pas mort, mais c'est bon, c'est codifié. Et là, par derrière peut-être, essayez de voir s'il n'y a pas quelle couverture sur les formes d'intelligibilité nouvelles, parce que je pense qu'il est urgent d'abandonner la façon de penser qu'on a héritée d'ici, c'est-à-dire cette façon de raisonner sur le monde, et cette façon de construire le monde à partir de ce type de raisonnement, parce que je pense que le monde qu'on construit n'est pas toujours très raisonnable. Il est peut-être rationnel, mais pas toujours très raisonnable. Donc, je pense qu'il est urgent de trouver une alternative à ces façons de penser. Ces façons de penser qui sont enseignées dans les écoles et qui se reproduisent de génération en génération sans être contestées.
Ça
Ça, c'est la, si vous voulez, je voudrais rester sur cette conclusion qui est loin d'être une conclusion et qui est une tentative d'ouverture vers l'avenir. Voilà. Merci, excusez-moi d'avoir dépassé un peu.